hacer.
Latina.
La francolatina.
L'engagement, tel est le maître mot de Daniel Mitterrand. À la tête de sa fondation France Liberté, créée en 1986, l'ancienne première dame de France agit en faveur des droits de l'homme et œuvre à la construction d'un monde solidaire, citoyen et responsable. Ses différents combats l'ont notamment menée au Chili, pays avec lequel elle a lié des forts liens d'amitié. Pour nous, elle revient sur son expérience chilienne et nous raconte sans détour, avec son franc-parler, les histoires et anecdotes d'une relation longue de plus de 30 ans.
J'ai connu d'abord beaucoup de Chiliens avant de connaître le Chili, parce que c'était sous le temps de Pinochet. François, lui, avait connu Allende longtemps avant. Et quand il y a tous ces réfugiés politiques en France, là, on a connu beaucoup de Chiliens en résistance à Pinochet. La première fois que je suis alors allée au Chili, c'est tout de suite après l'élection du président Alwin, parce que pendant toute cette période de dictature, nous soutenions par exemple, les femmes prisonnières dans leurs prisons. On était en contact permanent avec eux, avec elles. On essayait de défendre leurs droits de l'extérieur, puisqu'elles ne pouvaient pas les défendre de l'intérieur. Et puis aussi les prisonniers politiques dans la grande prison centrale, où il m'est arrivé d'entrer plus tard et de me rendre compte à quel point c'était dramatique. Bon, donc des contacts avec le Chili par les Chiliens, j'en ai eu énormément depuis 30 ans, depuis la dictature.
D'accord.
Et puis la démocratie s'est installée lentement, parce que c'est vrai que, alors que c'était déjà un régime démocratique, dans les prisons il y avait toujours les prisonniers de Pinochet, parce que les procès n'étaient pas finis et que dramatiquement c'était l'armée qui tenait la justice. Et que là, nous étions bec et ongle pour dire, mais enfin, c'est pas possible, ces gens sont en prison. Pour rétablir une démocratie, la démocratie est là, il faut les maintenir en prison. C'était quand même d'une injustice. Alors là, j'ai beaucoup réagi. Et puis, bon, j'ai gardé les amitiés. Alors après, j'y suis allée, comme ça, j'étais invitée à un forum du livre. C'était plus amical qu'humanitaire ou politique. Jusqu'à ce que, un jour, je reçois un témoignage des Mapuches qui me disent « Madame Mitterrand, venez nous voir, on va vous montrer quelque chose. »
C'était en quelle année ?
C'était en 97, je crois, non ? Non, les derniers, je crois que c'était en 97. C'était au moment où on commençait à s'occuper de l'eau, justement. Alors, c'était un jeune maire, Mapuche, il n'y en avait qu'un seul à l'époque, c'était le maire de Tirua. Milabour, il s'appelait, qui m'emmène voir un lac, un énorme lac, mais je ne sais pas, moi, la superficie du lac d'Annecy, hein, voyez, c'est pas un étang. Hein. Et il me dit, voyez, ce lac, il est très profond. Son eau était cristalline. Il y avait des espèces de poissons qui ne vivaient qu'en eau profonde dans les lacs, comme celui-là. Et la politique forestière de notre région fait qu'aujourd'hui, ce lac est glauque. Il n'y a plus d'eau cristalline, il n'y a plus de poissons. Les sources qui l'alimentaient, sur trois sources, il y en a deux qui sont taries et la troisième est polluée. Toute la terre qui était retenue par les forêts, l'humus et les racines des forêts natives, qui aujourd'hui ont été rasées et remplacées par des forêts d'épineux ou d'eucalyptus, toute cette terre qui n'est plus retenue par l'humus, à la première pluie, dévale dans le lac, et regardez ce que ça fait, en fait c'était de la boue. Et ils me disent, eh bien, on va tous mourir de ça, d'abord parce qu'on n'a plus que de l'eau polluée. Je suis restée 8 jours, pendant les 8 jours on a fait des centaines de kilomètres, à perte de vue, c'était des monts chauves, parce qu'ils avaient été rasés, toute la forêt native avait été rasée. Bon, vous savez que les araucarias sont des arbres que l'on plante et qui donnent leurs premiers fruits 60 ans après, mais qui vivent 200-300 ans. plus rien. C'est-à-dire que ce lien dans le temps fait par les araucarias, c'était le grand-père qui plantait un arbre pour que ses petits-fils aient des fruits. Et toute la richesse de cette forêt, qui était leur richesse, qui leur donnait non seulement l'habitat, mais qui leur donnait la médecine, qui leur donnait à manger, tout. Ils puisaient toute leur richesse de la forêt. Et comme ils ont des côtes à n'en plus finir, les Chiliens, la mer subissait le même sort que le lac, c'est-à-dire qu'elle aussi perdait toutes ses qualités de pureté à cause des eaux polluées et des insecticides. Donc il perdait aussi les poissons. Bref, cet homme était désespéré. Et pendant 8 jours, on a circulé sur des pistes. Alors bien sûr, tous ces camions de grumes d'arbres énormes créaient des ornières. C'était vraiment un champ de bataille. Et on voyait ces gens désespérés. Et puis, au cours de nos pérégrinations, on tombe sur une petite communauté, de quelques dizaines de gens qui s'accrochaient à leur terre, Et alors là, ils étaient pénalisés par la police et l'armée qui voulaient les faire fuir. Alors on les mettait en prison, ou ils étaient en procès. Et là aussi, on a essayé de défendre leur cause en disant... C'est pas possible que vous traitiez la population de cette région comme ça. Ils sont chez eux. Les forestiers, ce sont des assassins de se conduire ainsi. Non seulement ils leur prennent leur richesse, mais ou ils les font mettre en prison ou ils les exécutent. Moi, j'étais revenue assez remontée et assez révoltée pour aller voir le président de la République, que je connaissais bien parce qu'il était socialiste, il faisait partie de l'Internationale socialiste, si toutefois...
C'était Ricardo Lagos.
Lagos, oui. Bon, c'était... Il avait honoré François, il m'avait invité à quelques années avant à une grande manifestation justement pour faire François, je ne sais pas quoi, d'honneur, enfin bref, j'avais assisté. Donc, j'étais proche de lui, et puis je me sentais quand même... Dans la situation de pouvoir lui dire ce que je pensais. Et j'aborde. Vous savez, je viens de passer 8 jours dans la 8e région, chez les Mapuches, et son premier réflexe, il me dit, mais qu'est-ce que vous avez été faire là? Qu'est-ce qui vous intéresse là? Je dis, je ne sais pas ce qui m'intéresse, mais eux, en tout cas, ils ont envie qu'on s'intéresse à eux. J'ai fait leur connaissance, et moi je trouve que c'est une population très digne d'intérêt. Il me dit, mais pas du tout. Et la façon dont il m'en parlait, je me disais, mais il en parle comme des sauvages qui descendent de l'arbre. Enfin, j'étais ulcérée. Et je lui dis, mais c'est pas possible que vous pensiez ça. C'est la population chilienne, il faut pas. Oh, bah, après tout, ils votent mal. Je dis, mais ils ont peut-être quelques raisons de mal voter. Hein. S'ils votent pas pour vous, c'est peut-être qu'ils ont quelques raisons à vous entendre. Et puis, je continue, et manifestement, je me rendais compte que toute la bourgeoisie, enfin, c'est la bourgeoisie que je rencontrais à l'époque, quand je leur disais, je reviens de la 8e région, je disais, mais vraiment, vous allez vous perdre, c'est aberrant. Ça m'avait quand même beaucoup troublée. Et puis, cette situation forestière, à une autre échelle, moi je la connais depuis 60 ans. Dans le Morvan, c'est comme ça. Il y a les producteurs de petits sapins de Noël qui dévastent la forêt celte. Et quand François était député de l'endroit, pendant des années et des années, il a essayé de résister à cette invasion des forestiers et des grands forestiers qui font un mal fou à la forêt. Alors il avait pris des mesures en créant un parc. Le parc du Morvan, mais c'était des mesures, comment dirais-je, c'était pas une politique générale de l'entretien des forêts dans le monde, c'était localisé, et puis, bon, il essayait de parer au plus grave, mais il n'arrivait pas à résister à cette... Parce que les paysans morvandiaux, ben, ils préféraient vendre leurs terres à un producteur de sapins qui leur achetait, et puis... Ça faisait... Bon, la Noël, vous voyez ce que ça donne. Quoique maintenant, les Morvandiaux, ils sont bien revenus de cela. Et je me suis dit, je vais amener les Mapuches dans le Morvan. Et le maire l'a invité, il est venu, il a rencontré les Morvandiaux, ils se sont racontés leur histoire commune. Bon, ça n'a pas débouché sur grand-chose, mais en tout cas, les uns et les autres savaient que le problème était là, qu'à différentes échelles, il était plus ou moins supportable, mais que le problème était là, et que c'était le problème qu'il fallait prendre en considération, davantage que les populations elles-mêmes, qui aideraient d'ailleurs à résoudre ce problème. Pour le moment, ce n'est pas le cas, mais on y arrivera.
Et depuis votre première rencontre avec les Mapuches, vous avez continué à collaborer avec eux, la fondation.
Eux, ce qu'ils voulaient avant tout, c'est de ne pas se retrouver en tête-à-tête avec le gouvernement chilien et qu'il y ait une autre voie à l'extérieur. Ils ne me demandaient rien d'autre. Hein. C'est pas moi qui vais aller me affronter les forestiers, d'autant plus que c'était des forestiers français en plus. C'est une entreprise française.
Bon, mais ce qu'ils vous demandaient, c'était de faire le lien avec
faire le lien, et puis,
les dirigeants.
Et puis moi, je continue d'abord avec les dirigeants, puis ensuite de plaider cette cause qui les dépasse. Et bon, alors, mon premier acte a été de les faire rencontrer les Morvandiaux, mais après, là, dans tous nos discours, il n'y a pas de moi où je ne reprends pas ce plaidoyer des foresteurs, je pourrais dire, comment ils font. Et d'autant plus que tout cela nous a amené aussi à nous rapprocher de l'Amazonie et qu'avec les communautés indiennes du Brésil, ça finit par faire un réseau. Nous, à la Fondation, notre mission, c'est de conforter ces réseaux et de plaider et d'avoir les arguments qui nourrissent notre plaidoyer en les connaissant, en faisant connaître leur situation, puis du même coup, ça les met en avant, ça leur donne la possibilité de s'exprimer, d'être entendus. C'est un tout cela.
Et depuis 10 ans, est-ce que vous avez l'impression que la situation a évolué, s'est améliorée?
Non, mais c'est l'actualité qui nous donne raison aujourd'hui. Et la crise d'aujourd'hui, c'est le résultat de toutes ces violations permanentes de la nature, de l'homme, de ça, qui aujourd'hui fait que nous, notre but pour les générations à venir, c'est de poser les jalons d'une société, d'une autre société, et que les générations suivantes aient un choix de société à faire. C'est-à-dire qu'on ne leur impose pas le choix de la société marchande, de la société financière, de la société de l'argent, où l'argent est maître, et maître à penser, alors que nous, on leur prépare une société où l'homme, la vie, encore plus que l'homme, le vivant, est au centre de nos préoccupations et toute la politique que nous pouvons développer, partant de là, s'adresse à la préservation de la nature, à la préservation de la vie, au bien commun de l'humanité, comment on doit lancer ce défi que les éléments, les quatre éléments qui sont constitutifs de la vie, c'est-à-dire l'eau, l'air, la terre, il faudra revenir sur à l'histoire de la terre. C'est pas possible non plus que les nations, les propriétaires, surtout quand on est dans des régions comme au Brésil où il y a des propriétaires qui ont des propriétés qui font la moitié de la France, briment les populations. Ça, c'est pas possible. Donc il faudra revenir sur la notion de qu'est-ce que la planète et qu'est-ce que la vie sur la planète. En définitive, la propriété n'existe pas. On passe, on a un droit de présence, on a un droit d'exploitation pour l'intérêt général, mais pas pour la propriété. Ça, c'est un de nos défis, et on le lance.
Je sais que suite aux derniers événements au Chili, notamment des grèves de la faim de prisonniers mapuche, vous avez envoyé des courriers à Michel Bachelet.
Oui, parce que c'est la même chose, c'était la continuité. Michel Bachelet s'est fait élire comme femme de gauche, socialiste, très bien. Mais je suis quand même perplexe quand on lui parle de la situation de communauté, de population, qui ne jouissent absolument d'aucun des droits élémentaires, simplement de la reconnaissance de leur existence. Et qu'elle ne me répond pas, ça me chiffonne beaucoup.
Vous lui avez envoyé plusieurs courriers?
Trois courriers. Bon, je ne vais pas continuer. Non, mais ça me chiffonne énormément. La Franco Latina.